Hey, how you doing?
Now, say my name.
You can't do anything with the information you have except maybe publish it in the Everyone Thinks We're Insano's home journal.
I come here to help, but y'all out for blood. I'm not answering no more questions.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 59 de Un épisode et j'arrête, le podcast 100% série de la CS, l'association française des critiques de séries en partenariat avec Binge Audio. Nous sommes ensemble, comme chaque semaine, pour une émission plus rapide que Jack Bauer en 30 minutes chrono, sans méchant terroriste, mais avec des critiques sévères mais justes, damn it.
Next one.
Pierre Langlais de Télérama pour vous servir et avec moi cette semaine, Marie Turcan de Numérama. Hello Marie.
Hello.
Marion Litté de Combini. Salut Marion.
Salut Pierre.
Et Alexandre Buyoko-Dabas des Inrocks. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Au menu cette semaine, un peu de cuisine sérielle avec la recette live pour faire un carton sériel inattendu, illustré par El succès de ces derniers mois, la Casa des Papels. Fallait bien finir par en parler, mais pas que, puisqu'on mentionnera d'autres cartons surprises, The End of the Fucking World, aussi sur Netflix, la norvégienne Scam, ou dans un tout autre genre, la française Capitaine Marlowe. Qu'est-ce qui fait qu'une série qu'on n'attendait pas spécialement cartonne fait le buzz ou s'impose dans les audiences? On en parle tout de suite dans un épisode et j'arrête.
Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia, no me llamaba así.
¡Quieto! ¡Quieto! ¡No te muevas, te reviento!
¿Cómo te suenan 2.400 millones de euros?
¿Mamá?
Estoy pensando en irme de viaje.
Nadie había dado un palo así. Ni en Nueva York, ni en Londres, ni en Monte Carlo. Así que si mi foto volvía a los periódicos, al menos que fuera por el atraco más grande de la historia.
Que cada familia de este país estará preguntando qué estamos haciendo.
¿Qué vamos a robar?
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Tu ne parles pas espagnol, tu n'as rien compris, c'est tant pis, on va pas se mentir. Chers amis, si nous sommes là aujourd'hui, c'est la faute d'une série espagnole. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais le carton de ce début 2018, cabron, nous vient de l'autre côté des Pyrénées. Ça s'appelle La Casa des Papels, c'est sur Netflix. Et tout le monde en a parlé depuis janvier. Personne en France n'a vu venir ce thriller à l'arrière-goût révolutionnaire sur une bande de braqueurs qui s'en prennent à la planche à billets à Madrid avec un plan a priori sans accroc. Et pourtant, à en croire certains chiffres, c'est le plus gros succès de la plateforme. Nous en ferons donc notre série témoin pour débattre aujourd'hui notre cas d'école, La Casa des Papels. Chers amis, pourquoi ça a marché? Vous avez 4 heures. Marie.
C'est pas la série le plus grand succès de la plateforme. Netflix a mis dans ses résultats trimestriels que c'était le plus grand succès non anglophone de la plateforme. Donc, et là, à Rome, on était avec Marion à la conférence Netflix et on a demandé. Ça prend pas en compte Narcos. Donc, au final, on passe de c'est notre super succès à ok, en fait, c'est juste le meilleur succès en non anglophone. Bon, mais on compte pas Narcos parce que Narcos, il y a quand même de l'anglais. Donc, c'est
ce
pas
qui en dit déjà long sur le côté communication de cette histoire-là, évidemment.
Bien sûr,
on
faut
va
le jouer
en parler.
À fond. Vous avez vu les bus. Il y a des affiches partout, on a la
Casa. Pauvre Bella Ciao. Ça, c'est une autre question. Alors, quand même, ça a beaucoup parlé, ça a beaucoup buzzé, ça a beaucoup discuté. Pourquoi cette Casa des Papels, qui aurait pu être un énième thriller qu'on ne voit pas en France, est devenue ce phénomène, disons ce mot-là, même si c'est un mot qui veut tout rien dire? Marion.
Ben, en fait, pour moi, elle a un petit goût de bonne petite série old school. C'est-à-dire, beaucoup d'épisodes, quand même, il y en a 22, ce qui est hyper rare sur Netflix. Bon, c'est pas Netflix qui l'a décidé, parce que, rappelons-le, La Casa des Papels, à la base, c'est diffusé sur Antena 3 en Espagne.
C'est pas une série originale Netflix, contrairement
non.
à ce qu'ils disent.
Oui, voilà.
Et c'est des épisodes de 70 minutes en oui. Espagne, qui ont été redécoupés par Netflix pour être plus cohérents avec l'audience.
Absolument. Mais en fait, le récit est ultra bien ficelé. On est sur une sorte de huis clos parce que d'un autre côté, on a quand même les policiers qui travaillent, mais on est un peu sur, on est vraiment, dans la psychologie et dans ce qui se passe plutôt du côté des braqueurs. Et il y a des twists, des rebondissements. C'est à la fois grandiloquent, mais il y a tout ce qui fait une série addictive pour un public qui a juste envie de voir un bon divertissement, en fait.
Donc, presque d'un point de vue critique, tu dirais logique que ça ait marché?
Logique pour le succès populaire, logique aussi pour moi que les critiques ne l'aient pas forcément vu venir, parce qu'en fait notre regard critique il a quand même beaucoup évolué en 10 ou 20 ans, et pour moi c'est une série qui aurait très bien marché sur une chaîne de network aux États-Unis
sur
par exemple,
chaîne,
mais c'est pas ça fait pas partie de ces séries qui maintenant existent très premium où tous les critiques de séries vont s'enflammer. C'est pas un True Detective, c'est pas un nouveau Breaking Bad, on n'est pas sur ce genre de série.
Marie. Surtout on n'est pas des surhommes, et en fait La Casa de Papel elle a été mise en ligne le 20 décembre 2017 par Netflix, la première partie, et pour des gens comme moi qui étaient en vacances de Noël chez papa maman et ou papy mamie, et en fait on est un peu passé à côté aussi, je pense, à cause de ça. Et on est, en tant que critique, on peut le dire, on est un peu passé à côté. Mmh. En tant que, pour revenir un peu sur l'intrigue, pour moi, il y a quelque chose qui fait la qualité addictive de cette série, c'est le fait qu'on a l'impression que tout a été pensé. Donc c'est une série qu'on peut regarder sans vraiment se mettre en danger en tant que spectateur. Tu as l'impression que quoi qu'il se passe, le professeur y avait pensé 3 épisodes avant toi. Et donc, en même temps, tu te mets en danger, alors tu mets le doigt de pied dans l'eau, mais en fait, pas vraiment, c'est pas grave. De toute manière, tout va bien se passer, tout va bien se finir, on a pensé à tout.
Pour moi, la seule comparaison directe avec une autre série, c'était Prison Break. Hein. Le professeur, c'est Scofield qui a tout prévu en avance.
Exact, c'est le tatouage ridicule où il avait tout prévu, le numéro de portable de la meuf infirmière.
Alexandre. Ce qui est ce qui marche bien dans la série, principalement à partir de sa seconde moitié, c'est aussi, désolé pour les spoilers, le moment où le plan parfaitement huilé se met à dérailler. Et c'est là où, tout d'un coup, on prend aussi un plaisir un petit peu jouissif ou malsain à voir toute cette tout ce braquage s'effondrait petit à petit et s'effilochait devant nos yeux.
Alors Marie, tu nous parlais de tes vacances chez papy et mamie. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une série qu'on n'ait pas vue d'un coup soit celle que tout le monde doit voir? C'est-à-dire que, alors on n'est pas dans le secret des tuyaux de Netflix, mais à quel moment on s'est dit, tiens, ça buzz cette affaire? Parce que, ça, effectivement, tu l'as bien dit, ça s'est pas fait en décembre, ça s'est fait plus tard, plutôt en février, mars.
Bon, on va pas se mentir, il y a les réseaux sociaux qui jouent une grande partie. On a des Twitter trends, on a des posts sur Facebook de nos amis qui commencent à dire bon bah cette série, en fait meilleure série du monde, enfin tout ce que vos amis Facebook peuvent dire en hyperbole. Donc on avait ça, on avait aussi le fait que Netflix a quand même poussé sa série. Il faut pas le cacher non
mais
plus.
Mais après coup, mais elle a poussé au moment où elle a vu qu'il commençait à y avoir quelque chose, elle a commencé à sentir le truc en février, et là ils ont mis gros sur la communication, mais avant c'est sorti complètement en catimini, ils étaient pas dessus.
D'autant plus que je suis pas sûre que ce soit la même chose, le même succès dans les autres pays européens. On sait que c'est un gros carton au Brésil, on sait que c'est un carton en France, mais il y avait des moments, justement quand on a rencontré les exécutifs de Netflix, vous avez l'impression qu'ils disaient que c'était un succès quand même très français aussi, et pas forcément partagé par nos amis allemands ou belges.
C'est vrai que quand elle avait été diffusée à la base en Espagne sur Antena 3, je crois que ça avait quand même un gros succès local, qui avait eu de nombreux prix en fin d'année.
Oui, parce que vous dire que d'un point de vue qualitatif, même si c'est une série qui est loin d'être révolutionnaire, contrairement à ce qu'elle raconte, c'est un cran au-dessus de la plupart des fictions espagnoles qu'on a l'habitude de voir, en termes de qualité de production, de qualité de l'interprétation. Globalement, c'est bien foutu, même si c'est trop long. Enfin bon, ça a plein de défauts. Mais du coup, j'en reviens à cette histoire de buzz. Est-ce qu'il y a quelque chose d'irrationnel qui nous échappe complètement à nos autres critiques, qui est une forme de suivisme, et tout le monde s'est dit, il faut que tu regardes La Casa de Papel, alors que ça aurait pu arriver avec n'importe quelle série?
Non, moi je pense pas que ça pourrait arriver avec n'importe quelle série. Il y a aussi un effet de bouche à oreille. Je me souviens, et j'ai presque un peu honte en tant que critique de série, mais les premières personnes qui m'ont parlé de La Casa de Papel, ce sont des collègues à moi qui ne travaillent pas du tout dans le milieu des séries et qui sont abonnés à Netflix et qui ont envie de, enfin qui regardent des choses sur Netflix tous les week-ends et qui m'ont dit ah t'as vu La Casa de Papel, c'est vachement bien foutu et tout. Oh là là, c'est hyper addictif. On s'est maté 10 épisodes dans le week-end. Et petit à petit, ça a bruissé comme ça. Et comme dit Marie, on rajoute Twitter à tout ça, on rajoute après la com de Netflix et on a le succès.
Et puis une forme de pression populaire qui fait que derrière, y compris nous autres, on est obligé d'en parler finalement.
Ah bah là, oui,
c'est-à-dire que si à un moment tu dis pas ce que tu penses de La Casa de Papel, même si c'est pour dire ouais, faut se calmer les amis, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, et bah t'as participé à la machine.
Oui, mais ça c'est aussi le rôle de critique, de parler de choses qui meuvent ou qui émeuvent les gens, et on n'est pas censé parler que des choses qu'on aime ou des choses qu'on n'aime pas d'ailleurs.
Absolument. Est-ce que c'est pas quand même le signe que Netflix peut transformer, et spécifiquement Netflix, Je suis pas sûr que si c'était France 2 qui avait diffusé La Casa de Papel, ça aurait fait le même effet. Est-ce que Netflix a ce pouvoir de transformer le bronze en or?
La question, c'est plutôt est-ce que Amazon Prime Video aurait pu transformer? Parce que tu compares à France 2, mais c'est pas comparable. En revanche, là, Amazon Prime.
Si, parce que c'est pas du tout le même type de diffusion.
Oui,
c'est
mais
ça
justement,
que
je pense qu'il y a quelque chose d'encore plus spécifique à Netflix aujourd'hui, c'est qu'on est dans la plateforme globale qui a 125 millions d'abonnés. Même Amazon Prime, qui a aujourd'hui 100 millions d'abonnés, ne réussit pas à faire buzzer une série. On a parlé de Transparente, I Love Dick, même The Man in the High Castle. C'est des séries qui sont populaires auprès des critiques, mais il n'y a pas eu de succès encore vraiment populaire par les spectateurs, j'ai l'impression.
Alexandre.
Puis Netflix, ça a aussi cette politique depuis quelques années d'aller chercher des séries dans différents pays, des séries pas forcément en langue anglaise. Là, il y a une série danoise qui va bientôt arriver. Il y a eu la série allemande Dark,
qui est arrivée
en France.
The Rain.
Qui est arrivée d'ailleurs. Et que ce soit des séries originales ou des séries reprises, je trouve que voilà, ils cherchent à élargir leur public et de manière différente que Amazon Prime Video.
Alors justement, parce qu'on parle de Netflix, avant La Casa de Papel, il y a eu The End of the Fucking World, une petite série anglaise propulsée au rang de phénomène hype, alors qu'elle aurait pu rester une petite série anglaise. Et bien avant Making a Murderer, qui aurait peut-être pu rester un petit documentaire adoré de la critique, mais que tout le monde s'est précipité dessus. Donc il y a cette capacité quand même à transformer. Alors que ce soit qualitativement remarquable ou pas, parce que parmi ces séries-là, il y a de très belles choses, de transformer des choses qui auraient pu rester dans l'ombre en grand succès populaire.
J'ai l'impression que c'est quand même, The End of the Fucking World, ça reste un espèce de phénomène intracritique. J'ai pas l'impression que ça ait explosé à ce point-là.
Ah, c'est dans... hype quand même. Hein.
C'est hype, mais effectivement,
c'est vrai, mais c'est facile.
End of the Fucking World, c'est un peu comme Atlanta aux États-Unis. C'est une petite série super bien foutue qui a
c'est un peu
un
moins
public...
bien qu'Atlanta.
Non, mais qui a bien sûr. Mais je veux dire, il y a un public, de niche et ça marche bien auprès des jeunes qui sont abonnés à Netflix. Mais effectivement, c'est pas comparable pour moi à Making a Murderer ou La Casa de Papel. Mais en tout cas, Netflix est devenu pour moi un espèce de network mondial. Et c'est ça qui fait son succès, en fait. C'est que les gens découvrent aussi d'autres cultures. Making a Murderer, là, c'est pas une culture, mais ils se sont pris de... Il y a déjà un truc sur le fait divers qui marche très bien. Et Netflix a popularisé
un très
le
bon
docu-série.
Podcast d'un épisode
oui,
de
absolument,
sur
qui
le
s'appelle
sujet.
True Crime. Mais Netflix a popularisé comme ça la série docu ultra addictive. Et les gens adhèrent. Mais de l'autre côté, pour moi, le succès de La Casa... C'est plus sur découvrir aussi une culture espagnole séduisante, un truc auquel on n'avait jamais accès avant. En fait.
Y a le côté exotique, mais on va en parler un peu plus tard de ce côté exotique de ces succès surprises.
Pour moi, il y a aussi le fait qu'on imagine Netflix comme un grand géant qui sait tout. Ça se voit aujourd'hui que même Netflix est pris de court par certains succès. Et tu l'as dit avec La Casa de Papel qui a été mise en avant par la suite, qui a aujourd'hui été rachetée pour faire une troisième partie diffusée exclusivement sur Netflix. On surfe un peu sur le buzz, mais c'est exactement ce que le patron de Netflix met en avant en disant maintenant on veut annuler plus de séries parce qu'on veut commander plus de séries parce qu'on ne sait pas ce qui va exploser en termes d'audience. On peut avoir des idées, ils peuvent savoir un petit peu, là on voit que c'est l'explosion des teen shows, il va y avoir The Innocent, il va y avoir et pas mal de séries comme ça qui vont se focaliser sur les jeunes parce qu'il y a eu le succès de 13 Reasons Why. Donc ils essayent de reproduire les choses, mais réussir à savoir exactement la série qui va émerger, c'est compliqué. Par exemple, la directrice, après je m'arrête là, la directrice des contenus de Netflix, regardant par rapport à Sense8, a dit récemment, je pense que la série est sortie trop tôt. Si elle était sortie en 2018, elle n'aurait pas été annulée aujourd'hui. Donc tu vois qu'il y a plein de paramètres qui aujourd'hui même eux ne sont pas capables de prendre en compte avec la technologie et les moyens qu'ils ont.
Et ce pouvoir des spectateurs et l'impact qu'ils peuvent avoir sur les choix des chaînes, on va en parler justement.
Fy fan!
Hva da?
Har du sett bildet av Magnus Lansson på Instagram?
Se på han! Fy faen, Eva! Virkelig, liksom.
Hva er det du har på deg?
Å, herregud! Se på puppen hennes.
Nei, ikke
må...
så over til deg. Det er liksom... Lea nummer to.
Hva galt med Lea? Lea. Slutt det.
Après l'espagnol, je vous propose un peu norvégien avec un extrait de Skam, gros carton chez les 15-25 ans ces trois dernières années. Plus improbable encore, car invisible légalement chez nous, en tout cas à l'époque, là on descend plus profond encore dans l'alchimie du buzz, ou comment le public va chercher lui-même les séries qu'il regarde. C'est un signe de quelque chose, alors on va avoir un vrai débat philosophique presque, d'une réappropriation des séries par le public, on avait commencé à en parler finalement, quitte à saborder cette émission, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de secret pour faire un hit et que c'est le public qui décide ?
Bah, en tout cas, pour revenir à Scam, ça a été un phénomène vraiment dans son pays d'origine, aussi justement parce que dès le début, ils avaient choisi de mettre ça sur les réseaux sociaux. En fait, c'est la vie d'adolescents dans un lycée, et ils mettent à chaque fois le jour et l'heure où la scène se déroule, et en même temps, le soir même, ils postaient la scène avec le réseau social de tel personnage sur Facebook. Donc ça a été un phénomène qui a tout de suite, les personnes qui s'occupaient de Scam ont lancé comme ça au public. Le public s'en est emparé.
Il y a un travail sur le buzz, en fait. Il y a la création.
Là, il y a eu un gros travail sur le buzz.
Donc, c'est vrai que c'est pas seulement le pouvoir du public, c'est aussi le pouvoir d'attirer le public.
Après, moi, je trouve qu'au-delà cette approche un peu révolutionnaire, multimédia, chacun des personnages du show a par exemple un compte, par exemple, un compte Instagram où les photos sont postées en direct. Enfin bon, il y a quelque chose d'assez fort là-dessus, mais je trouve aussi que ce qui fait que Scam marche, à mon avis, c'est qu'il y a quand même une vraie qualité d'écriture. Oui. C'est une série teen qui ne regarde pas les ados de haut, qui ne les ridiculise pas non plus, qui ne les déifie pas non plus. Et elle rappelle en cela beaucoup Skins, il y a 10 ans, qui tout d'un coup avait tendu un miroir à une jeunesse, un vrai miroir. Quoi.
Mais ceci dit, pour revenir non pas seulement à la qualité, mais à comment une série norvégienne non diffusée en France arrive par être un truc vachement connu de nos adolescents, c'est quand même étonnant. Et donc je repose ma question, à laquelle finalement on n'a pas répondu. Est-ce que le pouvoir n'est pas dans les mains du peuple, d'une façon ou d'une autre? C'est-à-dire qu'il peut aller chercher... Oui, il a toujours été, parce que les audiences comptent, mais il y avait une communication, il y avait tout un truc. Scam n'a jamais été vendu en France.
Non, mais c'est-à-dire qu'avant... en fait, c'est vrai que l'ère des réseaux sociaux permet ça aussi au public de choisir. Avant, il n'avait pas le choix, il était devant sa télé, il regardait ou pas, c'est tout. Mais là, en l'occurrence, sur Scam, en fait, il y a des liens qui ont tourné sur des Google Docs gratuits. Il y a toutes les, en fait, il y a tous les épisodes de Scam sur Dailymotion qui sont visibles quand même. Et c'est ça, en fait, les gens ont choisi les jeunes ont choisi d'aller s'intéresser à cette série-là précisément. Après, ta question, c'était, y a-t-il un secret pour faire une bonne série?
Non, la question de base, c'était de savoir comment on peut faire un hit surprise. C'est le débat de cette émission.
Internet.
Oui, voilà, exactement. Oui, pour moi, c'est ça. Maintenant, c'est les réseaux sociaux, c'est Internet. Ça a une force telle que ça vienne de Norvège, d'Espagne, d'Italie ou du Brésil. En fait, si les gens en entendent parler, ils vont commencer à s'intéresser. Et si c'est une bonne série, c'est très... Enfin, après, c'est à nous de décider ce qui est une bonne ou une mauvaise série, et au public aussi. Mais il y a plein de types de bonnes séries. La Casa de Papel, pour moi, est une bonne série. Handmaid's Tale aussi. Et pourtant, en termes de type, c'est deux succès.
Ou alors, si
qui
on fait une battle des séries Handmaid's Tale, la Casa de Papel, je pense que la Casa de Papel va finir en papier.
Je parle pas en termes de critique, mais je veux dire en termes de succès populaire. C'est deux succès populaires. Ça a été deux phénomènes très différents qui sont incomparables en termes d'impact sur la société, bien sûr. Mais on est sur deux énormes succès populaires. Voilà. Et deux séries très différentes. Donc, on peut pas dire qu'il y a un secret.
Alexandre.
Ce qui est intéressant avec Scam, c'est qu'il y a eu une déclinaison française qui n'a pas du tout aussi bien marché que l'original. Et quelque part, cette volonté de reproduire la recette, elle n'a pas forcément pris de la même manière. Donc il y a quand même une part d'inattendu, d'arriver au bon moment.
Et bon, on va s'arrêter là. Non, je déconne. Marion, tu disais un truc quand même, parce que tu dis les réseaux sociaux, Twitter, machin et tout, mais tu as employé un mot clé. C'est le bouche à oreille. Parce que moi, la Casa de Papel, c'est pareil. C'est une collègue qui a fait « Ah ben, je regarde ça avec mon fils, on rigole bien et tout. » J'en avais jamais entendu parler. Donc, on n'est pas si old school que ça. Le bon vieux bouche à oreille fait encore son effet aujourd'hui. Et ces hits surprises, je pense qu'ils doivent autant à l'impact des réseaux sociaux que aux gens autour de toi qui vont t'en parler, quoi.
En fait, c'est un podcast pour dire qu'on est super nuls.
On s'est fait avoir, pardon.
Le public est meilleur.
Virez-nous.
Bah non, le public est pas meilleur, parce que si ça tenait qu'à moi, la Casa de Papel, ça serait resté un bon divertissement dont trois personnes auraient parlé. C'était pas non plus le truc pour faire un succès comme ça.
Moi, je suis super contente du succès de la Casa de Papel.
Ah, mais je suis content, mais sauf qu'il y a plein d'autres séries qui sont restées dans l'ombre et qui étaient bien meilleures que la Casa de Papel.
Moi, je pense que
le buzz Rubicon, par exemple.
Ouais, bah oui, Rubicon, c'est ça, tu peux le regarder avec ta femme, ton fils,
Il faut que ça résonne chez les gens, un hit populaire, en fait. Il faut que ça résonne
avec
la société.
Merci, Marion. Le mot populaire n'a pas été employé depuis le début de cette émission.
Ah bon?
Bah, je crois pas qu'on ait dit beaucoup le mot populaire.
En tout cas, c'est parce que je pense que une série qui résonne intimement chez les gens, c'est ça qui fonctionne. Et la Casa de Papel, ça a aussi résonné. Bon, je sais pas si t'avais prévu d'en parler, mais il y a aussi évidemment une critique de la finance. Et avec tout ce qui s'est passé dans notre société ces dernières années, ça marche aussi, tu vois. On a envie d'être ces braqueurs et d'aller braquer une banque quand on voit la Banque Centrale Européenne qui fait n'importe quoi, quand on voit la corruption qu'il y a à tous les niveaux, quoi.
La Casa de Papel a cartonné, mais est-ce que ces hits sont forcément des succès commerciaux? Là, la question
ça,
est.
C'est une autre question, parce que Netflix n'a pas du tout les mêmes considérations d'audience que des diffuseurs classiques. Donc, c'est impossible de dire. Je pense que c'est pas ces deux parties-là de la Casa de Papel qui vont rendre Netflix riche ou réussir à... En revanche, si, ça peut réussir à faire ramener de nouveaux abonnés. T'as tes potes qui parlent de la Casa de Papel de tout le temps non-stop. Tu te dis, bon, bah, je vais aller voir ce que c'est. Un mois gratuit, Netflix, faut rappeler. Ouais. Et en plus, la possibilité d'annuler exactement quand tu veux.
Et c'est à ça que sert la... Pardon.
C'est une interface très, très facile d'utilisation. Enfin, je veux dire, c'est pas pour faire du tout leur com.
Oui, je me disais, range ce billet qui est sur la...
Non, justement, c'est plus une Black Mirrorification. C'est pour expliquer comment ils vont vraiment être partout, tout le temps, tellement c'est facile aujourd'hui d'aller sur Netflix. Et du coup, pour eux, pour revenir à la Casa de Papel, c'est plus la saison 3 la partie 3 qui va être cruciale en termes de succès ou non. Parce que maintenant, ils l'ont renouvelé, maintenant, ils se sont battus pour avoir les droits, pour pouvoir. Mais la Casa de Papel, partie 3, elle va arriver en 2019. Est-ce que le succès sera toujours au rendez-vous? Est-ce qu'ils n'ont pas juste surfé sur le buzz et vont être un peu déçus derrière?
Oui, c'est vrai qu'il y a tous ces enjeux-là qui seront...
Non, mais là, ils sont un peu de... Moi, ils me font un peu penser, la comparaison est un peu bizarre, mais ils me font un peu penser à l'époque de Disney-Pixar, quand ils arrêtaient pas de faire des suites, et quand il y avait un succès, ils essayaient de faire une suite.
C'est Marvel
et là, moi, je pense que
renouvelle tout.
Voilà, et là, ils sont... Netflix, heureusement, ils sortent beaucoup de nouvelles séries aussi, mais moi, j'ai un peu peur que Netflix finisse par tomber dans les prochaines années, dans ce truc de... On a réussi à faire un succès surprise, essayons de le reproduire, de faire un nouveau Stranger Things ou un machin qui ressemble...
Français ? Non, pardon.
Ouais, c'est encore un peu. C'est pas une suite exacte, mais là, faire moi, je parlais de ça pour faire une espèce de saison 3, la Casa de Papel, alors qu'on sait très bien que c'était une mini-série fermée, vu la manière dont la série se termine. On voit pas pourquoi ils repartiraient sur un nouveau délire, El Professor. Bref, du coup.
C'est ce qu'a fait Prison Break et on
voilà,
connaît la suite.
Voilà, mais c'est ce qu'on fait Big Little Lies, là, en ce moment. Aussi, c'est une mini-série d'extrêmement bonne qualité. Et en fait, c'est HBO, c'est ça ? A aussi cédé à l'appel de du succès et de renouveler la série qui était une mini-série bouclée pour une saison 2. Donc c'est pas là pour le coup, on n'est pas que focalisé sur Netflix.
C'est une tendance générale de vouloir donner des suites à des mini-séries qui cartonnent.
Surtout parce qu'on connaît pas la recette du succès. Donc dès qu'on a un truc, on va essayer de tuer la poule ou la poule aux œufs d'or.
Ça va ? Capitaine Marlowe, gendarmerie, la preuve. Vous me revêtez ou pas ? Là, comme ça. Là, voilà. On va se retrouver bientôt, très vite. Très très vite. Alors faites gaffe à vous. Capitaine Marlowe, toujours dispo, de jour comme de nuit. À tout à l'heure. Ouais, bah j'arrive. Oh putain, c'est pas vrai.
Alors, tout à fait rien à voir, et dans un autre genre, et un beau contre-exemple finalement à beaucoup de choses qu'on vient de dire là, la française Capitaine Marlowe, pas la capitaine du buzz, mais on s'attendait certainement pas à ce que la série de France 3 écrase la concurrence, dont TF1, et pourtant c'est un hit grand public, là pour le coup, on peut pas le nier, quoi qu'on en pense, ça marche différemment, ou est-ce que finalement, eh ben, il y a du buzz, il y a du bouche à oreille, comment on se retrouve avec une série au demeurant pas révolutionnaire, qui va comme ça casser les audiences et faire passer une chaîne comme France 3, qui est pas du tout la reine des audiences, devant TF1 qui a priori domine. Alexandre.
Ce qui est étonnant avec Capitaine Marlowe, c'est que les intrigues ne sont quand même pas très très intéressantes. On n'est pas du tout dans quelque chose de diaboliquement organisé comme la Casa de Papel. C'est vraiment une série un petit peu à l'ancienne de terroir et de personnages.
Oh, tu peux dire complètement à l'ancienne.
Complètement à l'ancienne, mais qui à mon avis qui attire par son casting tout simplement. On va rappeler que dans le premier épisode, Gérard Depardieu jouait par exemple un rôle très très important. Et il y a une espèce de tradition de la télé française comme ça, de faire défiler des têtes, Arditi, Depardieu. Et voilà, je pense que ça marche quand même chez les téléspectateurs. On a envie de prendre des nouvelles de ces acteurs, de ces visages connus et... Voilà.
On a envie, quand on a plus de 60 ans, de prendre le Noël.
Non, mais... Oui, mais c'est les gens qui regardent la télévision, Marie. C'est le public de la télévision.
Mais tu as mis le doigt sur... J'ai pavé la voie vers ta réflexion.
Mais tu peux la poursuivre, je t'en prie.
Non, mais évidemment, France 3 est en train de se faire TF1 de plus en plus, notamment parce que les personnes plus âgées, les plus que... Alors, c'est vraiment plus que 60 ans, on peut le dire, se décalent sur France 3, sur des fictions qui reviennent, sur des... même France 2, France 3, sur des Agatha Christie, sur des petits meurtres...
France 2, ouais.
Même Louis la Brocante, même des... C'est, ça a duré des années et des années, parce que c'est un rendez-vous rendez-vous rassurant, c'est des gens qui ont envie de régionalisme aussi, c'est ce que disait Alexandre. On le voit dans le journalisme numérique même, les articles sur les régions, c'est quelque chose qui marche énormément. Les gens dans un monde globalisé, il y a quand même des choses qui ne changent pas. Il y a des gens qui écrivent des bouquins que sur une petite ville de la Creuse, et ça marche énormément parce que en fait tu as envie d'avoir quelque chose que tu connais en fait autour de toi.
Et tu parlais de régionalisation, effectivement, est-ce que c'est pas ça un des clés de ces hits surprises? On le glissait tout à l'heure, on parlait d'exotisme. Alors la région du capitaine Marlowe, le nord-est de la France, est-ce que c'est exotique? Bah peut-être.
Non, il y a aussi
il y a un côté proximité. Alors c'est les deux aspects, proximité ou exotisme, mais en fait la proximité des uns et l'exotisme de l'autre, c'est le cas d'une série comme La Casa de Papel. Est-ce que finalement ces hits surprises qui sont rarement américains, c'est pas aussi l'expression d'un ras-le-bol de la série américaine et d'avoir envie d'autre chose?
Non, c'est un bienvenu chez les ch'tis. C'est t'as envie de voir. On depuis notre enfance, on nous met en tête que moi je suis barinoise, les Orinois savent pas conduire, les Lillois. Tu as des espèces de clichés sur les départements, sur les régions. C'est ancré en nous et ça en appelle presque à une fibre pas nationaliste, mais justement régionaliste ou quelque chose de qu'on a envie.
Mais je parle pas que de Marlowe, hein. Je parle de toutes ces séries dont on parle.
Des petits meurtres dans toutes les régions de France.
Non, mais même de La Casa de Papel, de Scam, de ces séries qui viennent d'ailleurs.
La France est particulière. Pour moi, c'est vraiment ce genre de séries. C'est des séries qui sentent le pâté, quoi. On a envie de manger un bon pâté devant ce genre de. C'est vraiment une spécificité française qui est beaucoup moins sexy que d'aller découvrir la culture espagnole. On les voit pas trop manger d'ailleurs dans La Casa de Papel. Donc non, mais c'est vraiment un truc français. Je pense qu'il y a aussi un truc de comme proximité. On disait, quoi. Ouais. Proximité, terroir et un public assez âgé, c'est ta grand-mère ou ton grand-père qui regarde ça, quoi.
Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant, Alexandre, c'est ce quand je parle d'exotisme, c'est qu'il y a quand même cette envie d'aller traquer le hit ailleurs, quoi. Scam, si ça avait pas été norvégien, ça aurait peut-être pas marché aussi bien. La Casa de Papel, si c'était pas en espagnol et qui disait cabron et tout ce qui va avec régulièrement, ça aurait peut-être pas aussi bien marché.
Claro que si.
Si, voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même ce, en fait, les hits avant et nous tomber dessus, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on va les chercher. Et qu'on va les chercher de préférence là où on n'est pas censé les trouver.
En fait, ce qui est un petit peu étonnant, je trouve, dans Capitaine Marlowe, c'est qu'au-delà de ce côté rassurant du terroir de la série française à l'ancienne, c'est quand même une série qui est menée par un personnage totalement fantasque, qui jure, qui sort des choses aussi assez modernes au final dans ses dialogues, c'est assez étonnant. Et quelque part, l'ailleurs de cette série-là, c'est le personnage, c'est pas tant la géographie. Et je trouve que c'est ça qui est finalement presque rafraîchissant dans Capitaine Marlowe.
On sent une petite affection pour Capitaine Marlowe chez Alexandre.
Mais légèrement, il y a pire.
Étonnamment, il y a vraiment pire.
On va donner son nom quand même à Corinne Massiro, parce qu'avant de faire Capitaine Marlowe, elle a fait vraiment plein de trucs super chouettes, et c'est pas parce qu'elle fait Capitaine Marlowe qu'elle continue pas de faire des trucs super chouettes. Donc ça fait toujours du bien d'avoir une bonne actrice à la télé française. Quand même, est-ce que ça dit pas quelque chose de la mondialisation des séries? Désolé, je suis coincé sur mon truc.
Non, mais je suis d'accord. Non, mais même le fait que Netflix rencontre un tel succès en ayant choisi la stratégie de se mondialiser, maintenant ça nous paraît évident. Alors qu'en fait, quand ils ont fait ça il y a quelques années, aller investir dans des séries brésiliennes, nous ramener des séries espagnoles, allemandes, enfin. En Espagne, moi, en tant que critique de série, j'avais entendu parler de Gran Hotel.
Un dos tres
avant, mais je veux dire, on avait trois séries en 15 ans. Et là, en fait, ça nous permet aussi. Et le fait qu'on soit dans un monde globalisé, on a aussi envie de s'intéresser beaucoup plus qu'avant aux autres pays, comment vivent les ados en Norvège, de manière vraiment différente aussi. De quelles sont leurs cultures, leur façon de faire la fin du bal de promo américain. Dans Scam, c'est le Russell, je sais plus quoi. Et en fait, les jeunes, pendant toute l'année, ils font tout en sorte pour. Ils doivent louer un bus et chacun a son bus et fait la fête et les uns vont dans les bus des uns et des autres. Des bus, quoi. Et c'est une vraie culture en Norvège que nous, on ne connaît pas.
Évidemment.
Donc c'est hyper intéressant de découvrir ce genre de choses dans les différentes séries.
Et donc, c'est presque un retournement de la stratégie de Netflix qui est au départ, en tout cas, attaquer les régions en disant on va faire des séries locales pour choper les publics d'Amérique latine, pour choper les publics de Japon, du machin et tout. Et au final, c'est autant les publics des autres pays qui finissent par s'intéresser à ces séries qui étaient destinées à des publics ciblés.
Mais c'est ça la stratégie de Netflix à partir de maintenant. Quand on voit les chiffres, c'est 50 millions à peu près d'abonnés aux États-Unis, ça veut dire un foyer sur 6. Dans tout le reste du monde, c'est 60 millions. Donc t'imagines, en fait, leur marché aujourd'hui, il est plus aux États-Unis. Leur marché, leur croissance d'abonnés, elle est globale, elle est dans le monde. Donc leur but, c'est de développer encore plus de productions, d'aller chercher les productions, aussi bien les produire que les succès et les hits, et pouvoir les ensuite les globaliser et gagner des nouveaux abonnés à l'extérieur des États-Unis.
Alors, Alexandre.
Après cette attirance pour les séries étrangères, moi, elle ne me semble pas non plus si nouvelle que ça. On se rappelle quand même de toute une vague de polars scandinaves, par exemple, qui a déferlé à la télé française, où il fallait chaque fois regarder, presque chaque mois, le nouveau polar venu du froid, comme on disait, dans la suite de Millennium et d'autres. J'ai l'impression que c'est quand même un phénomène qui est plus ancien que cette reprise.
Sauf que ça n'a jamais été des hits comme peut l'être La Casa des Papel ou comme ont pu l'être Scam pour un certain public.
Pour le coup, ça a quand même été...
C'était des hits littéraires et cinématographiques avant d'être sériels, ouais.
Mais surtout, ça disait pas grand-chose de la culture, je trouve, de ces pays scandinaves. On était vraiment focalisés sur le côté thriller, moi, je trouve.
Bon,
après,
oui, non,
peut-être
ça
pas
dépend.
Sur... Il y en a eu tellement une flopée.
La Casa des Papel ne dit rien de l'Espagne.
Oui, c'est une série un peu européenne, mais il y a un...
Ah, moi je trouve qu'elle dit des choses sur la place de la femme en Espagne.
On vous donne des clichés à souhait.
Il y a des clichés.
C'est une série espagnole pour le coup. Ça se passe pas. Ça pourrait pas se passer n'importe où.
À part le fait qu'ils parlent espagnol et qu'ils chantent Bella Ciao toutes les deux minutes.
Ils conduisent une Seat quand même.
Ouais, bah voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux ?
Sortons Netflix pour finir cette émission. Est-ce que on a beaucoup parlé de Netflix aujourd'hui ? Est-ce que une grande chaîne, a fortiori américaine, est-ce qu'une HBO, est-ce qu'une NBC peut encore faire du hit surprise aujourd'hui? Ou est-ce qu'en fait la surprise, elle doit venir d'ailleurs et les grands diffuseurs, ils peuvent plus créer de surprises? Parce qu'on les attend trop, parce que c'est plus possible.
C'est vrai qu'il n'y a pas d'exemple. HBO essaie de reproduire le succès de Game of Thrones parce que c'est bientôt fini et qu'il va falloir trouver autre chose. On est sur du Westworld qui est extrêmement poussé en termes de communication, en termes d'épisodes donnés à la presse. Enfin, on sent qu'ils mettent le paquet quand même parce qu'ils en ont besoin de cette série. Il y a Big Little Lies qui a fait un petit succès.
Oui, alors l'affiche quand même à la base, c'était pas la petite série qui sort de nulle part. C'est un petit peu le tout Hollywood qui est là-dedans.
Oui, c'est vrai.
Mais donc, Game of Thrones, c'est pas le meilleur exemple. Game of Thrones, c'est pas un hit surprise.
C'était un hit surprise, mais c'était en 2010.
Et il y avait quand même beaucoup d'ambition dans Game of Thrones, c'est-à-dire en termes de budget. Je pense que même si après ça a augmenté au fil des saisons, on était quand même sur l'adaptation de bouquins de SF très très ambitieux. Donc je pense que quand ils ont lancé la production de Game of Thrones, ils n'ont pas été ultra étonnés de la surprise qu'a pu avoir cette série.
Ils se sont peut-être pas dit que le public serait aussi large foncer vers cette série-là. Mais j'imagine qu'ils n'ont pas investi tous ces millions-là pour se dire on va toucher une petite niche et il y aura 250 000 personnes par semaine.
Mais là, tu mets le doigt sur le problème, c'est que c'est des petites chaînes qui n'ont pas des budgets aussi pharaoniques que les plateformes aujourd'hui de type même Apple, Facebook, qui vont investir des milliards également. HBO, ils peuvent produire 2-3 séries par an, une demi-douzaine par an.
C'est quand même plus difficile
de prendre des risques. C'est quand même plus difficile d'avoir un hit. Et c'est plus facile d'avoir un hit, a fortiori, quand tu peux lancer des centaines de séries par mois.
Eh bien, refermons là-dessus ce 59e épisode d'Un épisode et j'arrête, le podcast de l'ACS en partenariat avec Binge Audio. Merci à Marie Turcan de Numérama, Marion Litté de Combini et Alexandre Buyoko d'Abaz des Inrock. Merci aussi à Quentin à la technique. La semaine prochaine, ce sera le retour de la battle des séries pour s'écharper, pour savoir qui est la meilleure. D'ici là, likez nos pages Facebook et suivez nos comptes Twitter. Salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine.
Next one. Whoa, wait.
That's the last one.